La bibliothèque en vadrouille est aujourd'hui à Belfort pour la quasi-clôture du festival Entrevue et un petit temps de rencontre avec Benoît Forchat, enchanté.
Enchanté.
Et donc, vous avez présenté hier soir Gaz de France en avant-première, un film qui va sortir le 13 janvier prochain. Et pour débuter un petit peu la découverte de votre film, j'ai choisi un petit extrait d'un livre qui, je pense, peut trouver peut-être une forme d'écho. Alors c'est quelques lignes et je citerai après. L'élection présidentielle est une affaire d'incarnation. S'incarner, cela se prépare, on s'y efforce, on s'y emploie pendant de longs mois. Ce n'est pas chose aisée, cela relève autant de la mue que d'un long entraînement. Certains bombent le torse, d'autres ralentissent le pas. Celui-ci, qu'on avait connu volontiers blagueur et souriant, se compose en toutes circonstances une mine de croque-mort, confondant incarnation et enterrement. Langage, gestuel, démarche, toute la personnalité serait en contradiction avec l'image que l'on se fait d'un président. Mais quelle est cette image fatale? Personne n'est en mesure de le dire. Depuis le général de Gaulle, l'incarnation présidentielle a connu bien des vicissitudes. Donc évidemment, c'est un petit fragment de « Ces histoires qui nous gouvernent » de Christian Salmon. Et donc j'ai envie de te laisser rebondir en lisant encore un dernier petit fragment qui est le résumé du film. Dans la France des années 2020, Michel Battement, l'éminence grise du chef de l'État, doit d'urgence remonter la cote de popularité du président Bird afin d'empêcher la chute imminente du régime. Au fin fond des sous-sols surchargés de l'Élysée, il organise une consultation secrète en compagnie des meilleurs cerveaux du pays. Voilà, donc je te laisse rebondir à cette amorce.
Oui, écoute, c'est bien vu de citer Christian Salmon, puisque c'est Christian Salmon, je le vois sur la couverture du livre, je ne l'ai pas deviné
oui,
comme
mais
ça.
Mais c'est bien de le dire aussi.
Oui, parce
pour les auditeurs.
Parce que ça a été une influence pour l'écriture de Gaz de France. J'avais lu Storytelling aux alentours de l'année 2010 et ça me passionnait, je trouvais ça passionnant et ça a été une des influences pour l'écriture du scénario de Gaz de France. Et je réfléchissais, je méditais tout simplement en t'écoutant sur cette histoire du président qui s'incarne. C'est juste assez profond cette idée. Et on se rappelle par exemple, effectivement il y a un changement, une métamorphose. Les présidents eux-mêmes le disent, on ne sait jamais si c'est vraiment de la communication, si c'est vrai. Mais on voit bien par exemple que François Hollande est quelqu'un qui a changé quand il s'est incarné en président. D'un coup il a été effectivement pris d'une sorte de gravité. Et on ne sait pas si elle est feinte ou pas, je n'en sais rien, ce n'était pas à moi de le dire. Mais la seule chose qui est vraie, enfin je crois, c'est qu'il y a dans ce statut de président de la République quelque chose qui est de l'ordre quand même de la mythologie et du poétique. C'est-à-dire que tout à coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre du symbole, évidemment. Donc quand on critique le président de la République, quand on le trouve impopulaire, tout ça c'est évidemment c'est bien beau, mais la vérité c'est de se rendre compte qu'en fait ce poste a quelque chose d'un peu magique, pas seulement pour ceux qui veulent l'obtenir, mais aussi dans ce qu'il représente, c'est-à-dire qu'un président devient un personnage mythologique. Au moment où il est élu, il devient un personnage mythologique, une partie de lui quitte un petit peu le plancher des vaches.
Et mythologique pour rejoindre l'histoire, la grande histoire peut-être.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait il remplit cette fonction, c'est assez intéressant, mais il n'y a pas que le président. C'est-à-dire en fait c'est tout à fait lié à notre 5e République qui a évidemment des relents de monarchie. On voit par exemple un personnage comme François Mitterrand, est devenu Mitterrand. C'était avant son élection, c'était un type qui était un peu un loser, qui n'était pas spécialement. Il avait la vertu d'avoir réussi à unifier la gauche, mais c'était pas. En devenant président de la République, tout à coup, il est devenu Ramsès II. C'est assez intéressant. Et moi, j'aime plutôt ça, parce qu'en fait, ça n'existe pas comme ça dans tous les pays. En France, on a ce rapport avec l'autre président. Tout à coup, le président devient une sorte de quasi-divinité.
Alors maintenant, on va, via la deuxième citation, évoquer plutôt ton parcours, ta formation. D'abord, les Beaux-Arts, et ensuite, une école que je ne nomme pas encore, mais on va très vite arriver à la décrire. Donc là, je lis un fragment d'un programme de cette fameuse école. La deuxième année est consacrée aux moyens d'expression résultant de l'usage de tout ce qu'on appelle les nouvelles technologies, infographies et images calculées en 2D, en 3D, fixe ou animé. Art en réseau, interactivité sous les formes les plus variées, réalité virtuelle, robotique, effets spéciaux pour le cinéma, etc. Et là, je saute quelques lignes pour arriver sur la même page au mot suivant. La caractéristique principale de la pédagogie est le passage à l'acte de la création avec des moyens professionnels et en grandeur réelle. Après le petit bassin des écoles d'initiation, on passe dans le grand bain. L'école est donc aussi un lieu de production. Il s'agit, contrairement à la situation de l'étudiant d'une école traditionnelle qui pâtit toujours de l'absence d'une machine ou d'un technicien, que dans le nouvel établissement, le jeune créateur n'ait plus aucune excuse, que l'appréciation de sa création ne doive plus être relativisée. Et donc je source cette lecture, c'est donc l'impératif utopique, souvenir d'un pédagogue, du fondateur de cette fameuse école, le Frénois, Alain Fleischer. Donc, et pourquoi ? Parce que tu as suivi cette formation. Voilà. Donc en quelques mots, et aussi pour t'interroger sur la dimension technologique assez présente dans ton film.
Oui, ben, c'est vrai que le Frénois m'a beaucoup apporté, influencé ma vie et mon travail. J'ai suivi un cursus, un parcours que beaucoup de gens suivent au Frénois, c'est-à-dire que j'ai fait les Beaux-Arts. Moi, c'était à Rouen, d'autres venaient de tous les coins de France ou du monde. Et au Frénois, au début des années 2000, quand j'ai fait cette école, il y avait la possibilité de travailler avec des outils qui étaient un peu émergents, numériques, et de se constituer aussi tout à coup une sorte de savoir-faire. Et dans mon film, oui, il y a un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'artisanat numérique qui m'intéresse assez, qui est tout à fait lié en fait à mon histoire personnelle d'avoir travaillé au Frénois souvent la nuit, seul, et apprendre des choses sur le tas. Et du coup développer une technique qui est un peu frustre, mais qui me permet de faire ce dont j'ai envie.
Alors maintenant un autre mot sur un film que je n'ai pas vu mais dont j'ai pu lire quelques éléments sur la toile, c'est L'Antivirus. Et moi qui suis bibliothécaire, ça m'intéresse particulièrement parce que j'avais vu que la bande-annonce, mais donc peut-être peux-tu nous parler de ce film qui a un très bon titre, je trouve, et en tout cas voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, à vrai dire, je suis un peu geek et que L'Antivirus, c'est un film qui date de 2009, mais que j'avais écrit pas mal de temps avant déjà. Ça me passionnait en fait l'univers lié aux ordinateurs, pour dire les choses un peu platement. Donc il y avait cette idée d'essayer de documenter au cinéma ce qui se passait dans ma vie, par exemple quand je passais 8 heures sur un ordi. Et j'avais envie que ça soit raconté, j'avais envie aussi qu'on puisse raconter l'aspect comique et même existentialiste, à vrai dire, de ce phénomène. Et L'Antivirus raconte comment un réparateur s'installe dans la chambre d'une étudiante qui a perdu son mémoire, et comment il tente de le retrouver, mais on se rend compte aussi que ce réparateur a plutôt une tendance à la procrastination. Et donc son but, et c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est un truc qui est souvent lié avec la pratique informatique, son but en fait est de passer le plus de temps possible dans cette espèce de bonheur de l'écran d'ordinateur sans en décrocher.
Alors peut-être un mot maintenant sur le titre, puisque lors de l'échange qui a suivi la projection, il y a eu comme ça des réactions sur le titre. Alors moi, il m'en est venu une dans la nuit, c'est que, par exemple, il me semble qu'il y a une fameuse affiche qui existait dans les années 20-30, qui était Gaz à tous les étages, et qui a été très influente, une influence pour Duchamp aussi, qu'on connaît comme étant une figure centrale dans l'art. Et là, finalement, comme ton film, il décrit aussi trois étages, trois sous-sols. Est-ce que, comme ça, tu y as pensé ou pas du tout, enfin, voilà.
Oui, écoute, t'es la première personne à me parler du chant et j'imagine qu'il doit y avoir un écho. J'aime bien le mot gaz, j'aime bien sa forme, j'aime bien voir les lettres G, A, Z comme ça ensemble. Je trouve que ça sonne bien. Et effectivement, il y a peut-être une influence du champienne. Et il y a aussi le fait que le gaz, c'est quand même un état de la matière tout à fait singulier. Enfin, j'allais dire, on pourrait dire ça aussi l'état solide et l'état liquide. Mais quand même, le gaz, en fait, et tu vois, tu es la première personne à mettre le doigt dessus, c'est la sublimation, si je ne me trompe pas, de la matière. D'un coup, la matière se transforme en quelque chose comme ça d'impalpable. Et tu vois, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé vers ce titre. C'est intéressant que tu me mènes sur cette piste de Duchamp que j'avais oublié.
Alors maintenant, pour clore l'entretien, on a l'habitude de demander un conseil. Alors ça peut être un conseil de lecture, un conseil justement d'un artiste ami, voisin. Oui. Voilà, parfait. Le repas arrive. Voilà. Et voilà. Merci. Et donc, le conseil de lecture, voilà, merci. Voilà, savent que nous pouvons prendre une petite pause déjeuner pendant l'entretien. Et donc, avant d'ailleurs que tu nous donnes comme ça ton conseil, peut-être dire un mot justement sur une connaissance, puisque donc nous, à l'espace multimédia Gantner, nous avons parmi notre collection d'œuvres numériques une œuvre de Benjamin Nuel, qui est quelqu'un, je crois, que tu as croisé dans ton parcours. Voilà, peut-être dire un petit mot comme sous forme de clin d'œil à Benjamin, et puis ensuite en venir à ton conseil. Voilà.
Grand plaisir, parce que Benjamin Nuel est un garçon qui est passé par le Frénois, mais que j'ai découvert à travers sa série Hôtel, que je trouve vraiment épatante, une série qu'il faisait en 3D. Et aujourd'hui, Benjamin continue un parcours aussi intéressant avec des films, plus traditionnels, enfin avec des acteurs réels. C'est loin d'être des films traditionnels, ils sont assez habiles et vraiment intrigants. Et non, c'est un garçon que j'aime beaucoup et qui a beaucoup de talent.
Et donc voilà, maintenant, pour clore, avant que nous débutions le déjeuner, le conseil, soit un livre ou un film, voilà, ça tombe bien, tu es en train d'ouvrir ton sac,
oui,
et il y a sûrement...
C'est un conseil, en même temps, je sais que le livre a beaucoup de succès, il a beaucoup de succès, je l'ai acheté il y a quelques jours, de façon un peu bête, parce que j'ai entendu dire du bien, qu'il y a eu un prix. Enfin, j'avais déjà lu les livres de Laurent Binet, notamment un livre sur François Hollande, d'ailleurs, on revient à notre sujet de départ. Mais La septième fonction du langage, là, j'ai commencé, c'est très très drôle, c'est un livre que je recommande à tout le monde, avec un bon verre de vin et des escargots.
Parfait, bah, bon appétit à tous les auditeurs et merci à toi Benoît d'avoir pris ce temps avant de regagner ton domicile de travail et les prochains films, puisque j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà.
J'espère aussi.
Et puis en tout cas, un bon lancement pour le 19. Est-ce qu'il y aura une tournée? Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot. Ben,
pour le 13 janvier.
Voilà. Le 13 janvier, pardon.
Oui, c'est la sortie de Gaz de France le 13 janvier. Oh, écoute, oui, je vais accompagner le film autant que je peux. Pas mal d'endroits en France, partout où il sera montré.
Merci.
Merci à vous.